Je n'ai jamais demandé un denier à personne pour mes soins, excepté à ceux qui sont visiblement riches, mais je n'ai point laissé ignorer le prix de mes peines. Je ne fais point grâce des médicaments, à moins d'indigence chez le malade. Si mes paysans ne me paient pas, ils connaissent leurs dettes. Parfois, ils apaisent leur conscience en m'apportant de l'avoine pour mes chevaux, du blé quand il n'est pas cher. Mais le meunier ne m'offrirait-il que des anguilles pour le prix de mes soins, je lui dirais encore qu'il est trop généreux pour si peu de choses. Ma politesse porte ses fruits. À l'hiver, j'obtiendrai de lui quelques sacs de farine pour les pauvres. Tenez, monsieur, ces gens-là ont du cœur quand on ne le leur flétrit pas. Aujourd'hui, je pense plus de bien et moins de mal d'eux que par le passé. Vous êtes donné bien du mal, dit Genesta. Moi, point, reprit Benassi. Il ne m'en coûtait pas plus de dire quelque chose d'utile que de dire des balivernes. En passant, en causant, en riant, je leur parlais d'eux-mêmes. D'abord, ces gens ne m'écoutèrent pas. J'eus beaucoup de répugnance à combattre en eux. J'étais un bourgeois, et pour eux, un bourgeois est un ennemi. Cette lutte m'amusa. Entre faire le mal ou faire le bien, il n'existe d'autre différence que la paix de la conscience ou son trouble. La peine est la même. Si les coquins voulaient se bien conduire, ils seraient millionnaires au lieu d'être pendus, voilà tout. Monsieur, cria Jacotte en entrant, le dîner se refroidit. Monsieur, dit Genesta en arrêtant le médecin par le bras, je n'ai qu'une observation à vous présenter sur ce que je viens d'entendre. Je ne connais aucune relation des guerres de Mahomet, en sorte que je ne puis juger de ses talents militaires. Mais si vous aviez vu l'empereur manœuvrant pendant la campagne de France, vous l'auriez facilement pris pour un dieu. Et s'il a été vaincu à Waterloo, c'est qu'il était plus qu'un homme. Il pesait trop sur la terre, et la terre a bondi sous lui. Voilà. Je suis d'ailleurs parfaitement de votre avis en toute autre chose, et, tonnerre de Dieu, la femme qui vous a pondu n'a pas perdu son temps. Allons, s'écria Benassi en souriant. Allons nous mettre à table. La salle à manger était entièrement boisée et peinte en gris. Le mobilier consistait alors en quelques chaises de paille, un buffet, des armoires, un poêle, et la fameuse pendule du feu curé, puis des rideaux blancs aux fenêtres. La table, garnie de linge blanc, n'avait rien qui sentît le luxe. La vaisselle était en terre de pipe. La soupe se composait, suivant la mode du feu curé, du bouillon le plus substantiel que jamais cuisinière ait fait mijoter et réduire. À peine le médecin et son hôte avaient-ils mangé leur potage, qu'un homme entra brusquement dans la cuisine et fit, malgré Jacotte, une soudaine irruption dans la salle à manger. Eh bien, qu'y a-t-il? Demanda le médecin. Il y a, monsieur, que notre bourgeoise, Madame Vignot, est devenue toute blanche, blanche, que ça nous effraie tous. Allons, s'écria gaiement Benassi. Il faut quitter la table. Il se leva. Malgré les instances de son hôte, Genesta jura militairement, en jetant sa serviette, qu'il ne resterait pas à table sans son hôte, et revint en effet se chauffer au salon, en pensant aux misères qui se rencontraient inévitablement dans tous les états auxquels l'homme est ici-bas assujetti. Benassi fut bientôt de retour, et les deux futurs amis se remirent à table. Taboureau est venu tout à l'heure pour vous parler, dit Jacotte à son maître en apportant les plats qu'elle avait entretenus chauds. Qui donc est malade chez lui? Demanda-t-il. Personne, monsieur. Il veut vous consulter pour lui, à ce qu'il dit, et va revenir. C'est bien. Ce tabouret, reprit Benassi en s'adressant à Genesta, est pour moi un traité de philosophie. Examinez-le bien attentivement quand il sera là. Certes, il vous amusera. C'était un journalier, brave homme, économe, mangeant peu, travaillant beaucoup. Aussitôt que le drôle a eu quelques écus à lui, son intelligence s'est développée. Il a suivi le mouvement que j'imprimais à ce pauvre canton, en cherchant à en profiter pour s'enrichir. En 8 ans, il a fait une grande fortune, grande pour ce canton-ci. Peut-être possède-t-il maintenant une 40aine de 1000 francs. Mais je vous donnerais à deviner en 1000 par quel moyen il a pu acquérir cette somme, que vous ne le trouveriez pas. Il est usurier, si profondément usurier, et usurier par une combinaison si bien fondée sur l'intérêt de tous les habitants du canton, que je perdrais mon temps si j'entreprenais de les désabuser sur les avantages qu'ils croient retirer de leur commerce avec Taboureau. Quand ce diable d'homme a vu chacun cultivant les terres, il a couru aux environs acheter des grains pour fournir aux pauvres gens les semences qui devaient leur être nécessaires. Ici, comme partout, les paysans et même quelques fermiers ne possédaient pas assez d'argent pour payer leurs semences. Aux uns, maître Taboureau prêtait un sac d'orge, pour lequel il lui rendait un sac de seigle après la moisson. Aux autres, un setier de blé pour un sac de farine. Aujourd'hui, mon homme a étendu ce singulier genre de commerce dans tout le département. Si rien ne l'arrête en chemin, il gagnera peut-être 1 million. Eh bien, mon cher monsieur, le journalier Taboureau, brave garçon, obligeant, commode, donnait un coup de main à qui le lui demandait, mais au prorata de ses gains. Monsieur Taboureau est devenu processif, chicaneur, dédaigneux. Plus il s'est enrichi, plus il s'est vicié. Dès que le paysan passe de sa vie purement laborieuse à la vie aisée ou à la possession territoriale, il devient insupportable. Il existe une classe à demi vertueuse, à demi vicieuse, à demi savante, ignorante à demi, qui sera toujours le désespoir des gouvernements. Vous allez voir un peu l'esprit de cette classe dans Taboureau, homme simple en apparence, ignare même, mais certainement profond dès qu'il s'agit de ses intérêts. Le bruit d'un pas pesant annonça l'arrivée du prêteur de grains. Entrez, Taboureau, cria Benassi. Ainsi prévenu par le médecin, le commandant examina le paysan et vit dans Taboureau un homme maigre, à demi voûté, au front bombé, très ridé. Cette figure creuse semblait percée par de petits yeux gris tachetés de noir. L'usurier avait une bouche serrée, et son menton effilé tendait à rejoindre un nez ironiquement crochu. Ses pommettes saillantes offraient ces rayures étoilées qui dénotent la vie voyageuse et la ruse des maquignons. Enfin, ses cheveux grisonnaient déjà. Il portait une veste bleue assez propre, dont les poches carrées rebondissaient sur ses hanches et dont les basques ouvertes laissaient voir un gilet blanc à fleurs. Il resta planté sur ses jambes en s'appuyant sur un bâton à gros bout. Malgré Jacotte, un petit chien épagneul suivit le marchand de grains et se coucha près de lui. « Eh bien, qu'y a-t-il ? » lui demanda Benassi. Taboureau regarda d'un air méfiant le personnage inconnu qui se trouvait à table avec le médecin et dit « Ce n'est point un cas de maladie, monsieur le maire, mais vous savez aussi bien penser les douleurs de la bourse que celles du corps. » Et je viens vous consulter pour une petite difficulté que nous avons avec un homme de Saint-Laurent. Pourquoi ne vas-tu pas voir monsieur le juge de paix ou son greffier? Eh, c'est que monsieur est bien plus habile, et je serais plus sûr de mon affaire si je pouvais avoir son approbation. Mon cher Taboureau, je donne volontiers gratis aux pauvres mes consultations médicales, mais je ne puis examiner pour rien les procès d'un homme aussi riche que tu l'es. La science coûte cher à ramasser. » Taboureau se mit à tortiller son chapeau. « Si tu veux mon avis, comme il t'épargnera des gros sous que tu serais forcé de compter aux gens de justice à Grenoble, Tu enverras une poche de seigle à la femme Martin, celle qui élève les enfants de l'hospice. Dame, monsieur, je le ferai de bon cœur si cela vous paraît nécessaire. Puis-je dire mon affaire sans ennuyer monsieur? Ajouta-t-il en montrant Genesta. Pour lors, monsieur, reprit-il à un signe de tête du médecin, un homme de Saint-Laurent, il y a de ça 2 mois, est donc venu me trouver. Taboureau, qu'il me dit, pourriez-vous me vendre 130 setiers d'orge? Pourquoi pas, que je lui dis, c'est mon métier. Les faut-il tout de suite? Non, qu'il me dit, au commencement du printemps, pour les mars. Bien. Voilà que nous disputons le prix, et, le vin bu, nous convenons qu'il me les paiera sur le prix des orges au dernier marché de Grenoble, et que je les lui livrerai en mars, sauf les déchets du magasin, bien entendu. Mais, mon cher monsieur, les orges montent, montent. Enfin, voilà mes orges qui s'emportent comme une soupe au lait. Moi, pressé d'argent, je vends mes orges. C'était bien naturel, pas vrai, monsieur? Non, dit Benassis. Tes orges ne t'appartenaient plus. Tu n'en étais que le dépositaire. Et si les orges avaient baissé, n'aurais-tu pas contraint ton acheteur à les prendre au prix convenu? Mais, monsieur, il ne m'aurait peut-être point payé, cet homme. À la guerre comme à la guerre, le marchand doit profiter du gain quand il vient. Après tout, une marchandise n'est à vous que quand vous l'avez payée. Pas vrai, monsieur l'officier, car on voit que monsieur a servi dans les armées. Taboureau, dit gravement Benassi, il t'arrivera malheur. Dieu punit tôt ou tard les mauvaises actions. Comment un homme aussi capable, aussi instruit que tu l'es, un homme qui fait honorablement ses affaires, peut-il donner dans ce canton des exemples d'improbité? Si tu soutiens de semblables procès, comment veux-tu que les malheureux restent honnêtes gens et ne te volent pas? Tes ouvriers te déroberont une partie du temps qu'ils te doivent, et chacun ici se démoralisera. Tu as tort. Ton orge était censée livrer. Si elle avait été emportée par l'homme de Saint-Laurent, tu ne l'aurais pas reprise chez lui. Tu as donc disposé d'une chose qui ne t'appartenait plus. Ton orge s'était déjà convertie en argent réalisable suivant vos conventions. Mais continue. Genesta jeta sur le médecin un coup d'œil d'intelligence pour lui faire remarquer l'immobilité de Taboureau. Pas une fibre du visage de l'usurier n'avait remué pendant cette semonce. Son front n'avait pas rougi, ses petits yeux restaient calmes. Eh bien, monsieur, je suis assigné à fournir l'orge au prix de cet hiver, mais moi, je crois que je ne la dois point. Écoute, Taboureau, livre bien vite ton orge, ou ne compte plus sur l'estime de personne. Même en gagnant de semblables procès, tu passerais pour un homme sans foi ni loi, sans parole, sans honneur. Allez, n'ayez point de peur. Dites-moi que je suis un fripon, un gueux, un voleur. En affaires, ça se dit, monsieur le maire, sans offenser personne. En affaires, voyez-vous, chacun pour soi. Eh bien, pourquoi te mets-tu volontairement dans le cas de mériter de pareils termes? Mais, monsieur, si la loi est pour moi. Mais la loi ne sera point pour toi. Êtes-vous bien sûr de cela, monsieur, là? Sûr, sûr? Car voyez-vous, l'affaire est importante. Certes, j'en suis sûr. Si je n'étais pas à table, je te ferais lire le code. Mais si le procès a lieu, tu le perdras. Et tu ne remettras jamais les pieds chez moi. Je ne veux point recevoir des gens que je n'estime pas. Entends-tu? Tu perdras ton procès. Ah, Nenni, monsieur, je ne le perdrai point, dit Taboureau. Voyez-vous, monsieur le maire, c'est l'homme de Saint-Laurent qui me doit l'orge. C'est moi qui la lui ai achetée, et c'est lui qui me refuse de la livrer. Je voulions être bien certains que je gagnerions avant d'aller chez l'huissier m'engager dans des frais. Genesta et le médecin se regardèrent en dissimulant la surprise que leur causait l'ingénieuse combinaison cherchée par cet homme pour savoir la vérité sur le cas judiciaire. « Eh bien, Taboureau, ton homme est de mauvaise foi, et il ne faut point faire de marchés avec de tels gens. »« Ah, monsieur, ces gens-là entendent les affaires. »« Adieu, Taboureau. »« Votre serviteur, monsieur le maire, et la compagnie. » »«
Eh bien, dit Benassi, quand l'usurier fut parti, croyez-vous qu'à Paris, cet homme-là ne serait pas bientôt millionnaire ?»
Le dîner fini, le médecin et son pensionnaire rentrèrent au salon, où ils parlèrent pendant le reste de la soirée de guerre et de politique, en attendant l'heure du coucher. Conversation pendant laquelle Genesta manifesta la plus violente antipathie contre les Anglais.
« Monsieur, dit le médecin, puis-je savoir qui j'ai l'honneur d'avoir pour hôte ?»«
Je me nomme Pierre Bluteau, répondit Genesta, et je suis capitaine à Grenoble. »
« Bien, monsieur.
Voulez-vous suivre le régime de monsieur Gravier? Dès le matin, après le déjeuner, il se plaisait à m'accompagner dans mes courses aux environs. Il n'est pas bien certain que vous preniez plaisir aux choses dont je m'occupe, tant elles sont vulgaires. Après tout, vous n'êtes ni propriétaire ni maire de village, et vous ne verrez dans le canton rien que vous n'ayez vu ailleurs. Toutes les chaumières se ressemblent, mais enfin... vous prendrez l'air et vous donnerez un but à votre promenade.
Rien ne me cause plus de plaisir que cette proposition, et je n'osais vous la faire de peur de vous être importun.
Le commandant Genesta, auquel ce nom sera conservé malgré sa pseudonymie calculée, fut conduit par son hôte à une chambre située au premier étage au-dessus du salon.
Bon, dit Benassi, Jacotte vous a fait du feu. Si quelque chose vous manque, il se trouve un cordon de sonnette à votre chevet.
Je ne crois pas qu'il puisse me manquer la moindre chose, s'écria Genesta. Voici même un tire-botte. Il faut être un vieux troupier pour connaître la valeur de ce meuble-là. À la guerre, monsieur, il se rencontre plus d'un moment où l'on brûlerait une maison pour avoir un coquin de tire-botte. Après plusieurs marches, et surtout après une affaire, il arrive des cas où le pied gonflé dans un cuir mouillé ne cède à aucun effort. Aussi ai-je couché plus d'une fois avec mes bottes. Quand on est seul, le malheur est encore supportable.
Le commandant cligna des yeux pour donner à ces derniers mots une sorte de profondeur matoise. Puis il se mit à regarder, non sans surprise, une chambre où tout était commode, propre et presque riche.
« Quel luxe ! Dit-il. Vous devez être logé à merveille. »
Venez voir, dit le médecin. Je suis votre voisin. Nous ne sommes séparés que par l'escalier.
Genesta fut assez étonné d'apercevoir en entrant chez le médecin une chambre nue, dont les murs avaient pour tout ornement un vieux papier jaunâtre à rosaces brunes et décoloré par places. Le lit, en fer grossièrement verni, surmonté d'une flèche de bois d'où tombaient deux rideaux de calicot gris, et au pied duquel était un méchant tapis étroit qui montrait la corde, ressemblait à un lit d'hôpital. Au chevet se trouvait une de ces tables de nuit à quatre pieds, dont le devant se roule et se déroule, en faisant un bruit de castagnette. Trois chaises, deux fauteuils de paille, une commode en noyer sur laquelle était une cuvette et un pot à eau fort antique dont le couvercle tenait au vase par un enchâssement de plomb, complétaient cet ameublement. Le foyer de la cheminée était froid, et toutes les choses nécessaires pour se faire la barbe traînaient sur la pierre peinte du chambranle, devant un vieux miroir accroché par un bout de corde. Le carreau, proprement balayé, se trouvaient en plusieurs endroits usés, cassés, creusés. Des rideaux de calicot gris bordés de franges vertes ornaient les deux fenêtres. Tout, jusqu'à la table ronde sur laquelle erraient quelques papiers, une écritoire et des plumes, tout, dans ce tableau simple auquel l'extrême propreté maintenue par Jacotte imprimait une sorte de correction, donnait l'idée d'une vie quasi monacale, indifférente aux choses et pleine de sentiments. Une porte ouverte laissa voir au commandant un cabinet où le médecin se tenait sans doute fort rarement. Cette pièce était dans un état à peu près semblable à celui de la chambre. Quelques livres poudreux y gisaient épars sur des planches poudreuses, et des rayons chargés de bouteilles étiquetées faisaient deviner que la pharmacie y occupait plus de place que la science. Vous allez me demander pourquoi cette différence entre votre chambre et la mienne, reprit Benassi. Écoutez, j'ai toujours eu honte pour ceux qui logent leurs hôtes sous des toits, en leur donnant de ces miroirs qui défigurent à tel point qu'en s'y regardant on peut se croire ou plus petit ou plus grand que nature, ou malade, ou frappé d'apoplexie. Ne doit-on pas s'efforcer de faire trouver à ses amis leur appartement passager le plus agréable possible? L'hospitalité me semble tout à la fois une vertu, un bonheur et un luxe. Mais sous quelque aspect que vous la considériez, sans excepter le cas où elle est une spéculation, ne faut-il pas déployer pour son hôte et pour son ami toutes les chatteries, toutes les câlineries de la vie? Chez vous donc les beaux meubles, le chaud tapis, les draperies, la pendule, les flambeaux et la veilleuse, à vous la bougie, à vous les soins de Jacotte, qui vous a sans doute apporté des pantoufles neuves, du lait et sa bassinoire. J'espère que vous n'aurez jamais été mieux assis que dans le moelleux fauteuil dont la découverte a été faite par le défunt curé, je ne sais où. Mais il est vrai qu'en toute chose, pour rencontrer les modèles du bon, du beau, du commode, il faut avoir recours à l'église. Enfin, j'espère que dans votre chambre, tout vous plaira. Vous y trouverez de bons rasoirs, du savon excellent, et tous les petits accessoires qui rendent le chez-soi chose si douce. Mais, mon cher monsieur Blutot, quand même mon opinion sur l'hospitalité n'expliquerait pas déjà la différence qui existe entre nos appartements, vous comprendrez peut-être à merveille la nudité de ma chambre et le désordre de mon cabinet, lorsque demain, vous serez témoin des allées et venues qui ont lieu chez moi. D'abord, ma vie n'est pas une vie casanière. Je suis toujours dehors. Si je reste au logis, à tout moment les paysans viennent m'y parler. Je leur appartiens, corps, âme et chambre. Puis-je me donner les soucis de l'étiquette et ceux causés par les dégâts inévitables que me feraient involontairement ces bonnes gens? Le luxe ne va qu'aux hôtels, aux châteaux, aux boudoirs et aux chambres d'amis. Enfin, je ne me tiens guère ici que pour dormir. Que m'importent donc les chiffons de la richesse? D'ailleurs, vous ne savez pas combien tout ici-bas m'est indifférent. Ils se dirent un bonsoir amical en se serrant cordialement les mains et ils se couchèrent. Le commandant ne s'endormit pas sans faire plus d'une réflexion sur cet homme qui, d'heure en heure, grandissait dans son esprit.